Le journal Adia Chipoukou.
Laurent Kunda menace de reprendre les hostilités à l'est de la RDC. Il accuse le gouvernement de Kinshasa d'être responsable de la déstabilisation du pays. Réponse du berger à la bergère, le ministre de la Défense Onusumba demande à Kunda d'expliquer le bien fondé de sa lutte. Regain d'insécurité au Kasaï oriental, une camionnette du programme élargi de vaccination PEV a été attaquée par des hommes en uniforme. Processus électoral, 200 observateurs des élections viennent d'être formés à Mbandaka, une formation assurée par l'Institut électoral de l'Afrique australe. Voilà tout pour les titres et tout de suite les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans un document obtenu par Radio Okapi Goma, Laurent Kunda, le général dissident des FRDC, accuse le gouvernement de Kinshasa d'être responsable de la déstabilisation du pays, notamment dans l'Est. Il menace de reprendre les hostilités. Dieudonné Bagalwa.
Dans un document de 17 pages daté du 25 août 2005 fait à Kikuku dans le Masisi, Laurent Kunda lance une offensive contre le clan Kabila. Il l'accuse d'être la source de tous les maux dont souffre le pays. Laurent Kunda écrit, je cite, « Dans mon communiqué de presse rendu public à Minova le 16 août 2004, à l'issue du massacre de Gatumba, j'ai promis de me mettre en position d'accorder mes actes à ma parole dans les prochains jours. » Il ajoute, « Nous estimons que le moment est pleinement et amplement arrivé de nous y employer, et ce, par tous les moyens utiles pour contraindre ce gouvernement à décrocher et laisser sa place à un pouvoir exclusif, non conflictuel, capable d'instaurer dans notre République la sécurité et la paix pour tous. » Il conclut que la vie des Congolais n'a pas de prix et justifie l'offensive contre le clan Kabila et le démantèlement du clan Kabila. Nous sommes désormais plus que jamais déterminés à y mettre fin. Le document est signé Laurent Kunda Migo, général de brigade. Il a été remis aux journalistes de Radio Okapi samedi dernier par des personnes qui se disent proches de Laurent Kunda. A noter que sa présence est signalée depuis le week-end dernier à Kichanga, dans le Masisi par la population. Goma, Dieudonné Bagalwa, Radio Okapi.
Le ministre de la Défense vient de réagir face à ces menaces. Adolphe Onusumba, qui a quitté Goma ce mardi matin, demande au général Laurent Kunda de s'expliquer sur le bien fondé de sa lutte. Il est au micro de Jean-Paul Basila.
Je suis disposé à parler avec lui, qu'il me convainc, moi, que la lutte qu'il est en train de faire aujourd'hui, elle est noble, ou alors elle est faite pour protéger les intérêts d'un Kunda comme individu, mais pas Kunda appartenant à une communauté.
Selon vous, aujourd'hui, si Kunda manifeste la volonté de réintégrer l'armée, votre point de vue là-dessus?
Ça, c'est une question assez délicate, mais le Congo, aujourd'hui, fait partie de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas nous soustraire de cette réalité. Si aujourd'hui, moi je dis oui, je fais table rase, j'amène Kunda, et que le comportement de Kunda, au-delà de ça, fait que la Cour pénale internationale, par exemple, me le réclame, ça devient un problème au-delà de ce que moi je peux penser.
C'était Adolphe Onusumba, le ministre de la Défense. Pendant ce temps, on signale un regain d'insécurité dans la localité de Mangiva, territoire d'Irumu, environ 60 km de Bunia. Nous sommes en Ituri. Les habitants accusent les miliciens de violer des femmes et des filles. Ils volent et tracassent la population. Ces derniers demandent que des militaires ou des policiers soient déployés dans la région. Écoutez le témoignage de cet habitant de Mangiva, recueilli par Charles Tiricha, qui était récemment sur place.
Il y a beaucoup de miliciens dans le secteur de Mangiva. On est déjà fatigué de telles situations. Elles volent, elles pillent, elles violent et puis elles obligent aux gens de quitter donc ce secteur. Surtout là où ils sont proches, ils obligent à la population de quitter le secteur afin qu'ils puissent opérer librement leurs problèmes. Surtout ils visent les biens restants, les biens matériels qui sont restés, c'est déjà pour eux. La population locale n'a pas donc la capacité encore de retourner pour aller récupérer même ses biens, en fait, de survivre même 2-3 jours comme ça, c'est très difficile. Les militaires sont à Irumu et puis à Komanda. Cet intervalle est resté vide. L'intervalle de 18 km est resté vide. Il faut la présence des militaires pour sécuriser la population.
Toujours en Ituri, nous venons d'apprendre que 3 nouveaux cas de choléra s'ajoutent aux 11 personnes déjà atteintes au camp de Rwampara près de Bunia. Ce camp accueille la 4e brigade des militaires brassés et leurs familles. De nombreux cas d'autres maladies comme la malaria ont aussi été déclarés parmi les quelques 3000 militaires et leurs 1700 dépendants. Et ils sont en quarantaine depuis leur arrivée à Bunia dimanche afin d'éviter la contagion du choléra qui a déjà fait 20 morts au sein du groupe. Mais ils n'ont toujours pas de nourriture bien qu'ils ont maintenant accès à l'eau potable. Regain d'insécurité signalé au Kasaï oriental, plus précisément sur la route Mbujima et Kabinda. Une camionnette du programme élargi de vaccination PEV, antenne de Kabinda, a été attaquée dans la nuit de lundi à mardi par des hommes en uniforme. Les passagers de la camionnette ont été rançonnés après avoir été copieusement tabassés. Un lot important des vaccins a également été détruit. Plus de détails avec Emmanuel Elamegi.
En route vers Kabinda, les logisticiens et les chauffeurs de la zone de santé se font attaquer. D'après le témoignage, c'est dans la nuit du dimanche au lundi que les hommes en uniforme armés ont barricadé la route sur le tronçon Lukalabanga-Njika. Tout d'un coup, ils se sont mis à les tabasser en exigeant de l'argent. Faute de l'argent, leurs bourreaux se sont mis eux-mêmes à fouiller le véhicule. C'est par là qu'ils vont renverser les vaccins jusqu'à emporter 250 dollars, 75 000 francs congolais et 3 téléphones cellulaires. Les témoignages affirment également que les auteurs de ces forfaits ont eu à prendre ses victimes en otage en utilisant la camionnette pour leurs besoins jusqu'à 2h du matin. C'est alors qu'ils vont vite se rendre à l'hôpital général de Lukalaba pour les soins. Et les bourreaux, eux, se volatilisent dans la nature. D'après la coordination provinciale de PEV, ces intrants devaient servir pour la campagne des prochaines journées nationales de vaccination contre la poliomyélite prévue du 22 au 25 septembre prochain. Le médecin inspecteur provincial Audrey Moulumba lance un appel aux autorités militaires et policières pour la sécurisation de la campagne et des vaccinations. Plusieurs fois, les voyageurs se sont toujours plaints de l'insécurité sur ce tronçon, mais rien ne semble être fait pour parer à cela. De Mbujimayi, Emmanuel Elamegi, Radio Okapi.
À Mbandaka, par contre, ce sont 4 femmes vendeuses au marché Lomata qui ont été visitées par les hommes en uniforme non encore identifiés. Ces hommes ont pillé leurs marchandises alors que ces femmes venaient de s'approvisionner. L'incident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche au port de Bokilimba, non loin de Mbandaka. Récit de fait avec Ghislaine Nentobo.
À entendre ces femmes, il était minuit lorsqu'elles ont vu surgir un groupe de militaires bien armés. Ceux-ci leur ont exigé à chacune une somme de 2000 francs congolais. Du coup, ils se sont mis à fouiller leur panier avant qu'elles ne s'exécutent. Ils ont tout emporté, déclarent ces femmes, une somme de 90 000 francs congolais, vêtements, nourriture et même des objets classiques achetés pour leurs enfants. Cependant, aucun autre incident majeur n'a été signalé. Non seulement ces femmes vendeuses, un groupe de villageois en provenance de Lolo dans le territoire de Bolomba qui venait écouler ses marchandises en Mbandaka a subi le même sort. Ces jeunes gens fatigués à force de pagailler se sont reposés à Bokilimba pour poursuivre leur chemin le lendemain matin. Ces mêmes militaires leur ont ravi un montant de 10 000 francs congolais et d'autres produits. Notons que l'insécurité en Mbandaka est un problème qui préoccupe l'autorité provinciale. De son côté, les dispositions sont en train d'être prises pour faire un ratissage en vue de sécuriser la population avant l'identification et l'enrôlement des électeurs prévus au mois de septembre prochain pour la province de l'Équateur. Mbandaka, Ghislaine Tobo, Radio Okapi.
Processus électoral, 200 observateurs des élections viennent d'être formés à Mbandaka. La formation a été assurée par une délégation de l'Institut électoral de l'Afrique australe EISA qui séjourne dans cette ville depuis le week-end dernier. Pour les formateurs, ces observateurs auront un rôle très important à jouer dans le processus électoral actuellement en cours en RDC. Des précisions avec Régine Bokoumou-Nzango.
Objectif de cette formation, contrer toute tentative de fraude pendant les opérations électorales, à commencer par celle de l'identification et de l'enrôlement des électeurs et évaluer ces opérations sur base des critères préétablis. Au total, 200 observateurs des élections viennent d'être formés par EISA, Institut électoral de l'Afrique australe. Ces observateurs locaux sont ici des ONG et associations citoyennes intéressées à la réussite du processus électoral. Cette formation intervient au moment où la province de l'Équateur se prépare à démarrer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Quel comportement devra avoir les observateurs ainsi formés dans un centre d'inscription? Écoutez Ferdinand Kapanga, expert et chargé des programmes à l'Institut électoral de l'Afrique australe.
Un observateur doit être caractérisé par l'objectivité, l'indépendance d'esprit, la disponibilité, la courtoisie. Un bon observateur fait confiance à toutes les parties prenantes à ce processus, ne doit jamais afficher publiquement ses convictions politiques.
200 observateurs pour 965 centres d'inscription retenus par la CEI Équateur est insuffisant pour couvrir toute la province. Cependant, l'organisateur de cette formation s'est dit optimiste. Les observateurs seront mobiles. Il suffira d'une répartition méthodique pour suivre le déroulement des scrutins dans toute la province de l'Équateur. Mbandaka, Régine Bokoumou-Nzango, Radio Okapi.
S'agissant toujours du processus électoral en RDC, sachez que le Conseil de sécurité de l'ONU vient de donner son feu vert à Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, pour le déblocage de 103 millions de dollars pour la RDC. Ce budget est prévu pour la préparation des élections générales au Congo-Kinshasa.
Il est exactement 12h10 à Kinshasa, une heure de plus à Bukavu, à l'est du pays. La suite du journal avec Adia Chipuko.
Les étudiants de la commune de Bagira, dans le sud Kivu, réclament le retour de l'électricité. Cette commune, située à une quinzaine de kilomètres de Bukavu, souffre d'un manque d'électricité depuis des semaines. En colère, les étudiants ont bloqué la route menant vers Bagira et mobilisé les habitants. Le porte-parole des étudiants au micro de Sophie Badira.
Ça fait au moins 2 ans que le courant n'existe plus à Bagira, mais la population continue à payer le courant. C'est pour cette raison que nous avons dit non. Soit fini la SNEL à Bagira pour dire la SNEL ou rien dans notre commune. C'est pour cette raison que toutes les boutiques, les marchés, donc toutes les activités sont vraiment suspendues jusqu'à nouvel ordre. Si nous barricadons la route, c'est juste pour manifester aux autorités que nous sommes vraiment décis avec la SNEL. Nous sommes en train de lutter pour une cause noble et c'est le courant électrique. Nous voulons assez qu'on puisse nous rétablir dans nos droits.
Province orientale de nouveau, les travaux de réhabilitation du groupe de la centrale hydroélectrique de la Tchopo tendent déjà vers la fin. Ce groupe, qui est réhabilité par la société belge Alstom et des techniciens congolais, a fait l'objet de certains travaux de finissage dimanche dernier. Travaux qui ont consisté à tourner la machine manuellement et à démonter l'ancienne tuyauterie. Jacques Moukonkolé.
Selon le directeur intérimaire de la Société nationale d'électricité SNEL à Kisangani, l'ingénieur Roger Nzinga Iyolo, la turbine 2 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo pourrait tourner au mois d'octobre prochain. Selon lui, l'essentiel des travaux ont été déjà réalisés.
Au niveau du groupe, beaucoup ont été faits. Ce qui reste à faire, ce sont des petits travaux sur les circuits de réfrigération et sur la mise au point de la régulation des turbines. Ce sont les deux gros travaux importants qui restent à faire. Dès que ces travaux seront faits, on met la machine en rotation. Nous avons la chance à 90% de récupérer cette machine. Si tout va bien, vers octobre, on puisse faire la première rotation de la machine.
La mise en marche de cette machine devra entraîner l'augmentation de la production électrique. La Société nationale d'électricité pourrait alors desservir au même moment un grand nombre de ses abonnés. En attendant, la SNEL reste confrontée à la détérioration de son réseau électrique vétuste depuis de nombreuses années. Il faudrait donc penser à sa réhabilitation. Le directeur intérimaire de la SNEL en est conscient, mais accorde actuellement la priorité à la production. Rappelons ici que la ville de Kisangani est alimentée pour le moment en énergie électrique par une seule turbine, les deux autres étant défectueuses. De Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi.
Direction Katanga, pour terminer, deux groupes rivaux de la communauté luthérienne de Kalemi se sont affrontés dimanche matin au sein de la cathédrale Nehema de Kankomba. Selon l'inspection de la police nationale, le nouvel épisode s'est illustré par des menaces et des coups de poing entre les fidèles au pasteur Moussafiri et ceux de l'évêque Soumaïli. Pour les uns, il s'agissait d'une action menée pour installer leur pasteur. Pour les autres, une manifestation de provocation pour troubler l'ordre de l'église. Plus de détails avec François-Xavier Mibé.
Selon de nombreux témoignages, un groupe de jeunes fidèles au pasteur Moussafiri a fait incursion peu avant les débuts du culte dans la cathédrale Nehema, scandant des slogans hostiles à l'évêque Soumaïli. Le récit des événements avec l'évangéliste Nkulu Masoudi. Six Maïmaï sont venus bien armés. Un deuxième groupe a surgi muni des bâtons. C'était le groupe de Moussafiri. Les soldats Maïmaï nous sont contraints de quitter l'église pour les y installer. Ils nous ont distribué des coups au sein de l'église même. Par contre, Mathias Barouani, un ancien de l'église, apprécie autrement l'action entreprise par des jeunes luthériens.
La 14e semaine après la Trinité, c'est la fête des enfants. Dans les événements pareils, nous sommes obligés de nous réunir tous dans un même lieu. Même quand les policiers sont arrivés, ils n'ont trouvé aucun signe de bagarre. Nous sommes obligés de nous mettre ensemble comme c'était le cas d'hier. La solution ne peut pas venir d'ailleurs.
Pour sa part, l'inspecteur de la police Justin Kumbu a décidé que chaque parti organise les prières dans ses anciens lieux de culte. Le temps pour la police de réunir de nouveaux éléments avant la solution judiciaire attendue au parquet. Rappelons que la dizaine de conflits musclés enregistrés et souvent soldés par des coups et des arrestations au sein de la communauté luthérienne remonte en juin 2002 après les élections contestées d'Ngoï Soumaïli, sacré évêque du diocèse du Tanganyika. François-Xavier Mibé, Radio Okapi, Kalemi.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.